Chers auditeurs, auditrices, bonjour et bienvenue dans ce numéro du magazine Okapi Service, votre émission qui traite les questions de la vie au quotidien. Quelles sont les menaces qui pèsent sur la protection des bonobos dans les zones forestières de la RDC? Nous en parlons dans cette première partie du magazine Okapi Service avec deux invités. Il s'agit de Monsieur Claude Mugiemo, il est directeur de recherche de l'ASBL Mbou-Montour, et Monsieur Adams Kasinga, qui est promoteur de l'ONG Congo Conserve. Il est au téléphone depuis la ville de Kinshasa. Monsieur Adams Kasinga, bonjour et bienvenue dans Okapi Service.
Bonjour Monsieur Fati, merci d'être votre invité.
Si vous êtes intéressé par ces sujets concernant la protection des bonobos, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 099-706-9941. Appelez-nous, nous allons vous rappeler pour intervenir en direct. C'est aussi possible de nous laisser vos commentaires sur la page Facebook d'Okapi Service. Nous lisons par exemple les commentaires de M. Fils depuis la ville de Kananga qui soutient qu'il est important de sensibiliser les communautés locales sur l'importance de protéger ces primates. Nous attendons également vos commentaires dans les courriels dénommés service@radiokapi.net. Tati Mapoukou, c'est moi qui présente et coordonne ces numéros sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Julie Fezabongonda réalise cette émission et Jean-Noël Mokondo s'occupe de la mise en onde. Toute l'équipe vous souhaite une excellente condition d'écoute de ces numéros d'Okapi Service.
Radio Kapi.
Célébrons ensemble le 64e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. À partir du 30 juin, Radio Kapi vous propose une semaine de couverture exceptionnelle pour commémorer cet événement historique. Au menu, des reportages captivants, des témoignages exclusifs de ceux qui ont vécu ces moments historiques.
Car cette indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'attente avec la Belgique.
Du 30 juin au 6 juillet, suivez ce programme spécial sur nos ondes et nos plateformes en ligne. Radio Kapi donne la parole à ceux qui ont façonné le passé de la RDC et à ceux qui continuent de construire son avenir. Vive l'indépendance de la RDC.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix. Longtemps isolés sur des territoires difficilement accessibles, les bonobos sont en déclin, principalement à cause de l'activité humaine, les braconnages, la destruction de son habitat et les conflits armés dans certaines régions de la RDC. Avec un cycle de reproduction assez long, les bonobos ne parviennent pas à se multiplier suffisamment vite face à ces menaces croissantes. Les forêts de la province de Maïndombe, par exemple, au nord de la ville de Kinshasa, abritent encore environ 4000 bonobos selon WWF. Cependant, il suffit de faire un tour dans les marchés de la ville de Inongo où l'on vend la viande fraîche et boucanée de ces primates pour se faire une idée de la prédation à grande échelle que subit l'espèce dans les zones forestières de la RDC. Quelles sont les menaces qui pèsent sur les bonobos dans les zones forestières de la RDC? Comment améliorer, concilier l'écotourisme et protection de cette espèce dans les zones forestières de la RDC? Nous en parlons avec nos deux invités. Le premier, il est déjà disponible, c'est Monsieur Adams Kasingai. Nous rappelons qu'il est le promoteur de l'ONG Congo Conserve. Monsieur Adams, dites-nous, est-ce que c'est vrai que les bonobos sont vraiment exposés à la prédation ici en RDC?
Sûrement oui, Monsieur Tati, et c'est vraiment alarmant, car hier encore on célébrait la journée internationale du chimpanzé. Elle est en fait des quatre grands singes du monde. Et nous en RDC, nous sommes chanceux d'avoir trois de ces grands singes, et nous sommes alors le seul pays au monde qui a trois de ces quatre grands singes. Alors, nous avons le gorille, nous avons les chimpanzés et les bonobos. Mais les défis que court la conservation de ces primates est vraiment menacé. C'est vraiment menacé au point où je dirais même que les primates sont les animaux les plus braconnés et les plus trafiqués en Europe.
Mais qu'est-ce qui justifie cela?
Alors, il y a plusieurs raisons pour ça. D'abord, vous allez vous rendre compte que la RDC est un, alors c'est un métropole de la biodiversité. Trop peu de pays au monde possèdent la biodiversité que nous avons, et malheureusement, nous n'accordons pas beaucoup d'importance à cette faune, et cela facilite à des prédateurs, souvent étrangers, mais aussi locaux, à vouloir avoir ces animaux-là. Et ces animaux sont demandés pour plusieurs raisons, notamment comme animaux de compagnie, mais également avec la croissance des zoos qui émergent par-ci par-là, surtout sur le continent asiatique. Alors il y a demande de ces animaux-là, qui sont souvent rares et endémiques seulement à RDC. Alors ils sont convoités pour leur couleur, leur coiffure, leur couleur de robe, ainsi de suite.
Et au niveau local aussi, la communauté locale, au fait, fait la chasse également de ces primates pour des raisons de consommation, la forte demande des grandes villes, surtout de la viande boucanée, de ces animaux.
En fait, le phénomène viande boucanée est la genèse en fait du trafic. Parce que en RDC, soyons quand même honnêtes en ce qui concerne cela, le braconnage est d'abord pour la subsistance. C'est-à-dire les animaux sont tués pour être consommés. Mmh. Et il s'avère que les produits fauniques tels que l'ivoire, les écailles des pangolins, les ossements, les peaux, et ainsi de suite, deviennent comme des dommages collatéraux. Et malheureusement, avec la demande qui est souvent un peu plus juteux, alors ça pousse les locaux à aller tuer ces animaux, non seulement pour les manger, mais aussi pour avoir ces trophées-là qu'ils vont vendre à part. Mmh. Du coup, ça fait le double de l'intérêt. Mais localement, les animaux sont tués d'abord pour leur bien.
Et dites-nous alors, Congo Conserve, au fait, quelles sont les actions vous menez dans le cadre de la protection de ces primates ici en RDC?
Alors, nous sommes impliqués dans l'application de la loi de la conservation de la nature, notamment la loi 14/003 de 2014 relative à la conservation de la nature. Et nous sensibilisons les communautés. Alors, nous éduquons non seulement les communautés, mais aussi les autorités, qu'il existe en fait une loi qui protège ces animaux et que cette loi devrait être appliquée. Et nous ne cessons de collaborer avec les officiels de cours et tribunaux, mmh, parce que c'est eux en fait qui rendent le jugement final aux suspects que nous arrêtons souvent en flagrance, soit en train d'acheter ou en train de vendre la faune congolaise.
Et pouvez-vous nous faire une idée sur le dernier saisi que l'ONG Congo Conserve a eu à faire concernant surtout les trafics de ces primates?
Alors, la plus grande saisie de cette année, c'est pas cette année, mais je dirais les 12 mois passés, ça serait une saisie qui a été interceptée au niveau de Lomé, au Togo. C'était une cargaison de 42 singes en provenance de la RDC et qui avait comme destination finale le Thaïlande. Mmh. Mais alors, ils ont été interceptés au niveau de Lomé par les autorités et qui ont du coup contacté les autorités congolaises et qui ont aussi agi, réagi au même moment. Et on a reçu ces animaux, malheureusement, une bonne dizaine de ces animaux a succombé à la fatigue et à certaines maladies. Et cela va vous dire que le trafic est bel et bien existant et que nos animaux quittent le pays du jour au jour. Nous projetons que au moins 1500 singes quittent illicitement le territoire congolais chaque année pour aller à l'étranger pour des fins de faire de l'argent. Alors, donc c'était ça en fait notre dernière saisie. Mmh. Mais En luttant contre le trafic des espèces fauniques en général, on a fait encore une saisie avant-hier à Butembo, et cela a impliqué deux peaux d'okapi.
Monsieur Adams, merci pour tous ces renseignements. Mais on nous voit également dans certaines parcelles hein, où il y a des gens aussi qui détiennent ces animaux comme animal de compagnie. Est-ce que cela est recommandé?
Cela est vraiment déconseillé. Un animal sauvage n'a pas de place au milieu humain. Si vous aimez la nature, il serait mieux d'aimer la nature dans sa nature. Et que un chimpanzé, dans un groupe d'autres chimpanzés, il se sent à l'aise, il est à la maison, mais avec nous, il n'est plus à la maison. Et ces animaux, des fois, ils paraissent un peu doux et mignons quand ils sont petits, mais quand ils grandissent, il y a cet instinct sauvage qu'ils pourraient dégager, et souvent ils ont causé des dommages énormes, et souvent il est déjà trop tard. Alors, s'il y a quelqu'un qui détiendrait un animal quelconque, ça soit un oiseau, un mammifère, un reptile, je vous prierai de retourner ça au zoo le plus vite possible. Le zoo de Kinshasa est ouvert pour ça. Et vous n'avez pas besoin de vous identifier, vous remettez juste et vous sortez. Un animal sauvage doit être dans sa nature sauvage.
Est-ce qu'il vous arrive également de mener les enquêtes dans les marchés, dans des ports privés et publics, parce que ces animaux proviennent généralement des zones forestières du pays?
Malheureusement, avec nos enquêtes, on ne peut pas les faire officiellement dans des concessions privées. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons toute une équipe des agences de couverture et qui ont comme mandat d'infiltrer en fait ces réseaux, soit nationaux ou étrangers, pour qu'on comprenne comment ça fonctionne et que finalement qu'on en finisse une fois pour toutes. Et ça veut dire qu'on doit les arrêter tous et les mettre derrière les barres où ils doivent être.
Monsieur Adam Kasinga, nous rappelons que vous êtes promoteur de l'ONG Congo Conserve. Et quand vous saisissez ces primates, comment procédez-vous pour les remettre aux autorités de tutelle relevant le ministère de la Conservation de la Nature?
Alors, merci beaucoup pour cette question. Je dois rappeler que Conserve Congo vient en soutenance des efforts de l'ICCN, c'est-à-dire que nous soutenons les efforts déjà que l'ICCN a dans leur plan d'action annuel. Et du coup, quand nous sommes sur le terrain, nous sommes des représentants légaux de l'ICCN. Et s'il y a saisie directement, l'ICCN est notifié. Il y a tout un processus où l'animal doit passer. Et c'est à l'ICCN de décider dans quel sanctuaire ou dans quelle zone l'animal va. Donc, après avoir fait la saisie et remis l'animal entre les mains de l'ICCN, qui est le garant de la faune et de la flore congolaise, il revient à l'État congolais de faire ce que bon lui semble.
Et dès que ça sous-entend que dès que vous récupérez ces primates, donc vous remettez ces primates auprès de l'ICCN, c'est à l'ICCN au fait de réintégrer l'animal dans son milieu naturel.
Exactement. Et ce n'est pas tout le temps qu'on réintroduise un animal qui a été sauvé, qu'on le réintroduise dans son milieu naturel. Parce que la plupart des temps, ce sont des animaux qui ont déjà vécu pendant des mois, des fois des années avec les humains. Et du coup, son instinct n'est plus aussi adroit qu'il se doit. Et l'envoyer dans la nature, c'est l'exposer. Si pas aux autres animaux prédateurs, peut-être même aux humains. Alors, ça dépend des situations. Mais ça dépend aussi des cas. Certains animaux peuvent être réintroduits immédiatement dans leur milieu naturel, mais d'autres doivent encore être suivis, observés, et du coup, les vétérinaires décident quoi faire après.
Merci beaucoup, monsieur Adams Kasinga. Nous rappelons que vous êtes promoteur de l'ONG Congo Conserve. Et donc, on est en train de parler des menaces qui pèsent sur la protection des bonobos dans les zones forestières de la RDC. Notre invité qui est en route vient d'arriver au studio. Nous vous gardons en ligne, monsieur Adams, ne quittez pas la ligne. Il s'agit de monsieur Claude Monguillemo. Il est directeur de recherche de l'ASBL Mbou-Montour. Bonjour et bienvenue dans Capi Service.
Bonjour, monsieur Tati.
Vous confirmez que les primates bonobos sont vraiment exposés au braconnage et puis la demande, la consommation de sa viande aussi est très élevée dans les zones forestières de la RDC.
Oui, je le confirme. Je le confirme, c'est parmi les menaces qui pèsent sur la vie des bonobos.
Parlez-nous un peu de Mbou-Montour. Qu'est-ce que vous faites? Pour quel motif il a été créé?
Oui, Mbou-Montour, c'est une ONG des droits congolais qui évolue dans la société civile au niveau du territoire des Bolobos, à 300 km au nord de Kinshasa. Mbou-Montour a été créé par suite d'un constat sur la rareté des espèces fauniques dans la contrée. Ainsi, les populations locales, les communautés, particulièrement les communautés du village Nkala ainsi que quelques universitaires de la contrée ont décidé de mettre en place cette ONG appelée Mbou-Montour. Mbou-Montour vient du nom d'une rivière qui prend sa source derrière la ferme qui constitue la base, disons la base de MMT, notre site pilote. Mmh. Ok. Alors, Mbou-Montour travaille sur la conservation des bonobos et le développement local des communautés riveraines.
Pourquoi avoir ciblé la conservation bonobo dans les champs de vos activités?
Justement, bonobo, c'est les Bateke Nord, puisque là, nous sommes dans la chefferie des Bateke Nord. Mmh. Bonobo constitue une espèce protégée par les lois coutumières, c'est-à-dire les us et coutumes locales considèrent bonobo comme un ancêtre qui s'est enfui dans la forêt pour n'avoir pas honoré une dette, puisque la loi ancestrale faisait d'un débiteur insolvable esclave de son créancier. Alors, c'est pour cela, chez nous, on considère Bonobo comme étant un ancêtre. C'est pour cela que, comme les us et coutumes locales sont en faveur de la protection des bonobos, nous avons ciblé les bonobos. Pourquoi? Mmh. Parce que d'abord, c'est une espèce endémique de la RDC et puis une espèce en danger d'extinction. D'ailleurs, quand Mbou-Montour avait annoncé pour la première fois la présence des bonobos dans les territoires des bonobos, Les autorités nationales, les scientifiques, tant nationales qu'internationales, n'ont pas cru à cette information. Il a fallu que Mbou-Montour invite VVF dans les sites pour vérifier l'information. Et VVF est arrivé, c'était une mission de un mois, mais VVF n'a fait que 5 jours. Ils avaient toutes les preuves. Donc, ils ont vu les bonobos et en densité importante. Donc, c'était la densité la plus haute.
Et donc, dans la région, bonobo n'est pas consommé par la population.
N'est pas consommé.
C'est une primate, c'est un animal qui est intégralement protégé.
Un animal tabou, oui.
Qu'on ne mange pas, qu'on ne touche pas, qu'on ne menace pas.
Mais sauf que, dans les dernières années, la dernière décennie ici, il y a eu l'arrivée des non-autochtones, comme il y avait des sociétés d'élevage et les sociétés d'exploitation forestière.
Avec l'expansion démographique également.
C'est ça, avec l'explosion démographique. Il y a des gens qui ont essayé de commencer à braconner les bonobos pour les vendre à l'autre rive du pays, au Congo-Brazzaville surtout. Ils ont compris que ça faisait de l'argent. Quand Mbou-Montour a compris cela, nous avons mené des campagnes de sensibilisation en impliquant les chefs coutumiers qui sont des garants de la coutume teke. Nous avons impliqué les chefs coutumiers qui ont tonné, qui ont dit que celui qui va encore toucher, que ce soit autochtone ou non autochtone, de toucher sur les bonobos, il sera frappé des malédictions, des célibats, des maladies incurables. Les gens ont eu peur par rapport à la coutume. Ils ont commencé à respecter les bonobos, à respecter leur habitat. C'est ce qui fait que chez nous, les bonobos n'est pas touché. C'est un animal qui est respecté. Alors, Mbou-Montour travaille avec les communautés locales sur la conservation des bonobos pour les développements locaux. C'est-à-dire, Mbou-Montour travaille avec les pisteurs qui sont des jeunes natifs des milliers.
Moi, par exemple, qui viens de Kinshasa,
oui,
j'arrive dans le dans les villages, je veux voir les bonobos, ils servent de guides touristiques.
Oui. Ce sont des pisteurs. En même temps, ils jouent le rôle des guides touristiques, puisqu'ils connaissent mieux la forêt. Alors, on habite les bonobos. Nous avons 8 sites d'observation des bonobos, sauf il y a 3 sites là où on fait l'habituation des bonobos. Dans les autres sites, c'est les simples monitoring. Mais dans les 3 sites-là, c'est vraiment de l'habituation. À l'heure actuelle, on peut observer le bonobo à moins de 15 mètres pendant 4 heures du temps de suite. Donc, les bonobos sont vraiment habitués. Alors, on s'est dit avec les communautés locales, on va capitaliser la présence des bonobos en faisant de l'écotourisme. Comme les bonobos sont habitués, ils tolèrent la présence humaine, on peut maintenant faire l'écotourisme pour générer les revenus
et l'argent mobilisé pourra servir au développement de la contrée.
C'est vraiment les revenus durables. Pour les développements durables des communautés locales.
Monsieur Claude, dans cette émission, nous donnons également la parole à la population. Donc, nous allons vous garder au studio. Monsieur Adams, restez également en ligne. Nous allons partir au standard pour donner la parole à la première vague des auditeurs qui appellent de partout. Quelles sont les menaces qui pèsent sur la protection des bonobos dans les zones forestières de la RDC? Nous en parlons ce lundi, à l'occasion de la journée mondiale des primates, des chimpanzés, au fait, qui est célébré le 14 juillet de chaque année. C'est l'occasion idéale de mettre en lumière les exceptionnelles facultés de ces primates, l'un des 6 grands singes avec les gorilles, les bonobos, les orang-outans et les gibbons et les hommes. Si vous êtes intéressé par ces sujets, n'hésitez pas à nous appeler pour intervenir en direct au numéro 099-706-9941. Appelez-nous, nous allons vous rappeler pour intervenir en direct.
L'information se retrouve aussi tous les jours sur radiookapi.net. Actualité, sport, environnement, économie, culture. Réécoutez les journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Chaque matin, lisez aussi la revue de la presse congolaise. Radiookapi.net, votre site d'info sur le Congo. Vous êtes de plus en plus nombreux à l'utiliser.
Clément Daï, vous êtes le premier auditeur intervenu dans cette première partie du magazine Okapi Service. Vous appelez depuis la ville de Kananga. Bonjour et bienvenue dans Okapi Service.
Bonjour, monsieur les journalistes. Bonjour aussi à tous les deux invités de la radio Okapi.
On vous donne la parole.
Il est vrai que les bonobos... Oui, il est vrai que cette espèce animale, c'est une espèce très rare par les reproductions. Alors, je voudrais juste demander à notre invité, dans les coins... de la RDC où il y a l'insécurité. Quelles sont les dispositions que l'État a prises dans le but de protéger cette espèce animale? Et aussi, il y a certains villages où cette espèce vit vraiment à l'état sauvage. Est-ce qu'ils ont des informations fiables que cette espèce est bien respectée? Car c'est une espèce dont nous trouvons que non, les reproductions, c'est vraiment très rare. Là, pour le voir, c'est vraiment très rare. C'est ainsi que je voudrais me renseigner si à l'état sauvage, ils ont les informations fiables que cette espèce est respectée. Et pourquoi, à un moment donné, on trouve que non, la reproduction est vraiment très bizarre là. Ça se reproduit difficilement. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est par rapport à quoi? Aux conditions de vie ou bien c'est quoi au juste? Je voudrais juste me renseigner de plus près par rapport à ça. Merci vraiment et puis bonne journée chez vous.
Merci beaucoup, Monsieur Clément. Monsieur Claude va revenir sur le cycle de reproduction et la particularité de cette espèce animale. Adams, dites-nous, est-ce qu'on peut avoir une idée sur la cartographie, sur les régions où l'on trouve ces primates ici en RDC?
Alors, Tati, le bonobo qui est le seul grand singe citoyen congolais uniquement, se trouve seulement sur la rive sud du fleuve Congo. Alors, je dirais la rive gauche du fleuve Congo. Et parce que les grands singes, en général, ils ne sont pas des bons nageurs, alors ils n'ont pas pu traverser de l'autre côté. C'est ainsi qu'il n'y a pas de bonobo vers Kisangani, il n'y a pas de bonobo vers Kindu, ainsi de suite. Mais par contre, les bonobos se trouvent de l'autre rive, c'est-à-dire dans le Tchouapa et Maindombe, ainsi de suite.
Monsieur Claude, comment répondez-vous aux questions à la question de Monsieur Clément qui voulait avoir une idée sur le cycle de reproduction de ces primates et quelle est la particularité des bonobos en fait, parce que sa reproduction elle est un peu lente selon la littérature.
Oui, bonobo c'est une espèce qui est proche de l'homme. D'ailleurs, elle partage 98% de son matériel génétique avec l'homme. Alors, par rapport à son cycle de reproduction, oui, c'est, comme je disais là, il est proche de l'homme, c'est-à-dire, même sur le plan de reproduction, bonobo donne un petit, peut donner un petit à l'âge de 12 à 13 ans. Là, c'est l'âge de maturité sexuelle. Quand il donne un petit, un bébé, c'est pour donner encore après 2 ou 3 ans, même 4 ans. Vous voyez, ces rythmes de reproduction, quand vous les chassez, vous les massacrez, donc la population risque de connaître un déclin en un rien de temps. Pourquoi ? Parce que son rythme de reproduction est vraiment lent. C'est comme ça que Dieu l'a créé.
Ah, il est un peu semblable à celui de l'homme, en fait. Oui, au bout de 3 ans, au bout de 4-5 ans.
Je vous dis, c'est la seule espèce mammifère au monde qui fait des rapports sexuels pas seulement en période de chaleur, même en dehors des périodes de chaleur. Donc, comme l'homme, il fait des rapports sexuels pour la jouissance ou soit pour la reproduction. Les bonobos aussi, ils peuvent faire des rapports sexuels pour sa jouissance et non pas pour des rapports sexuels. Donc, il a des périodes de chaleur, il a aussi des périodes où il n'est pas en chaleur, mais il fait des rapports sexuels. Or, les autres animaux ne font des copulations qui est bien d'accouplement qui est
dans des périodes précises.
Période précise, période de chaleur, période d'ovulation. Mais c'est pas le cas pour les bonobos. Là, nous disons, il est vraiment proche de l'homme, même par rapport à sa vie sociale. Hein, c'est vraiment un animal qui est proche de l'homme. Bonobo observe les dés comme les humains. Quand un bonobo est mort, vous les voyez s'assembler en dessous d'un arbre là, pendant quelques temps. Et juste à ce qu'ils vont l'enterrer, ils vont mettre les feuilles mortes, les sables et tout ça. Et ils quittent les milliers. Ils ne font plus revenir ces milliers-là. Donc, c'est considéré comme cimetière pour eux. Donc, ils ne font plus revenir là-bas. Donc, ils vivent vraiment comme un homme. Quand un mère, disons, une maman bonobo est décédée et qu'il laisse un orphelin, cet orphelin est pris en charge par les autres mamans. C'est différent des autres mammifères.
Il y a même un pisteur, Monsieur Claude, qui m'a témoigné au sanctuaire Lola et Bonobo, au cours des réintégrations de ces primates à Bokatola, je pense, à Bikoro. Après 5 ans, il est reparti et il y a un de ces primates qui s'est rappelé de lui.
Oui.
Cet animal.
C'est vraiment un singe intelligent.
Et je voulais savoir également, est-ce que dans votre site d'habilitation, comment est-ce que vous procédez exactement?
Bon,
pour habiliter ou pour habituer à ce que ces primates puissent au fait, rester dans cet environnement-là afin de permettre le tourisme?
Ah oui. Bon, l'habituation, nous avons commencé cette activité, ça fait longtemps, depuis 2005, nous avons commencé à habituer les bonobos. Donc, nous avons les pisteurs qui font la forêt à partir des 5 heures du matin. Ils font la forêt, ils restent sous les nids des bonobos. Les bonobos se réveillent, ils les voient, ils commencent à marcher avec eux et jusqu'au coucher du soleil. Ils les laissent et ils vont prendre des points GFS, ils font des signes pour que la veille ils les retrouvent encore dans les mêmes lieux. Et ainsi de suite, les bonobos s'habituent à leur présence. Les bonobos tolèrent leur présence, puisque les bonobos, quand ils ne sont pas habitués, dès qu'ils vous voient, ils montent très haut, ils fuient. Mais quand vous voyez les bonobos commencent à accepter la présence humaine, commencent à nicher à des hauteurs, 30 mètres, moins de 100 mètres, ça signifie qu'ils commencent à tolérer la présence humaine.
Oh, non, une certaine socialisation, donc ils peuvent ne pas fuir lorsqu'il y a des gens qui s'approchent d'eux.
Oui. Alors, cette activité s'est étendu dans les temps, ça fait que 3 groupes de bonobos sont vraiment habitués à la présence des humains. Donc, lorsqu'on amène les touristes, bon, Il y a un nombre qu'ils tolèrent. Même si les touristes sont à 5, on peut prendre des avec un pisteur. Ils s'approchent, ils observent. À un moment donné, les dés là quittent, ils pourront prendre encore des autres. On ne peut pas mener un groupe de 5, 6 pour observer les bonobos. Ils ne sont pas habitués comme ça. Mmh. Ils risquent d'avoir peur et puis s'en aller.
Ok. Et concernant la visite et le tourisme, vous organisez ça comment? C'est semestriel? C'est d'une manière périodique ou les visites sont régulières?
Les visites sont régulières. Donc, c'est organisé juste à partir de Kinshasa, des bureaux de Kinshasa. Nous recevons les demandes. Oui, nous avons nos agents qui accueillent les visiteurs à partir de l'aéroport. Ils les amènent à l'hôtel et puis les jours suivants, Maluku, soit ils prennent les canaux rapides, soit notre baleinière qui est bien construite pour transporter les visiteurs jusqu'à Tchoumbiri. À partir de Tchoumbiri, nous avons la jeep et les motos qui peuvent les amener à la base. Et puis, les jours suivants, ils font la forêt.
Au troisième jour, hein?
Oui.
Ils font la forêt pendant combien de temps? C'est pour une journée?
Bon, cela dépend de leur préférence. Il y a des visiteurs, quand ils font la forêt comme ça, c'est juste au soir. Ils n'aiment pas retourner. Il y a d'autres, ils sont là, après avoir marché vers 11h, 10h, 10h, 11h, 12h, ils se disent, bon, on peut rentrer. Bon. Il y a d'autres qui disent, nous avons une semaine ici. Il y a d'autres, nous sommes pressés. Les canaux rapides, les mêmes jours, ils sont là. Les jours suivants, ils voient les bonobos.
Le lendemain, ils rentrent à Kinshasa.
Oui. Donc, ils partent le vendredi, le lundi ou dimanche soir, ils sont déjà à Kinshasa.
On me signale qu'un auditeur est au standard. Il intervient depuis la ville de Bounia. Il s'appelle Thomas. Thomas, bonjour et bienvenue dans Capi Service.
Bonjour, monsieur Tati. Bonjour à l'invité ainsi qu'aux auditeurs de la radio Capi.
Bonjour.
La question, j'ai des questions à poser à l'invité. C'est par rapport à quelles sont les principales menaces qui pèsent sur les bonobos dans les zones forestières, surtout de la RDC. Ils font face à quels sont les phénomènes, les menaces qui pèsent à l'air égard, surtout dans les forêts forestières de la RDC, mais aussi quel est leur impact sur la population. Est-ce que cet animal-là, on peut se familiariser avec, est-ce qu'il ne peut pas causer des torts à nos populations de temps en temps auxquelles on est habitué avec lui? Parce que je me souviens là, vers Mambasa, là, il y avait le phénomène Yaya Tembu qui était un éléphant là, qui arrivait même à blesser les gens. Est-ce que ce n'est pas le cas aussi avec cette espèce là des bonobos? Je ne sais pas si l'éviter, c'est ça et puis ma préoccupation quant à ça.
Merci beaucoup Thomas. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Bounia que vous intervenez. Adam Skatsinga, comment répondez-vous à monsieur Thomas de Bounia?
Merci beaucoup pour la question Thomas. Alors, les menaces sont nombreuses, mais je peux citer la déforestation, c'est-à-dire l'habitat des bonobos est menacé, notamment par la déforestation, mais aussi par des sociétés forestières qui sont en train de venir en RDC du jour au jour. Il y a braconnage, c'est-à-dire l'entrée illicite dans des aires protégées pour tuer et capturer des animaux. Mais il y a aussi le trafic illicite des espèces, qui est une menace énorme vis-à-vis de ces animaux-là, parce que souvent, les grands singes et les singes en général, ils sont tués pour qu'on récupère leurs petits qui sont ensuite vendus à l'étranger. Et tout ça pour de l'argent. Et alors, on estime que pour chaque singe sauvé, il a perdu au moins 10 à 11 membres de sa famille. Donc, c'est vraiment des survivants. Alors, la dernière menace, je dirais, c'est la pauvreté, surtout des peuples riverains qui vivent juste à côté de ces animaux-là. Mais en ce qui concerne le danger que représente le bonobo,
l'animal chez les communautés locales,
en soi, il n'y a pas de danger. Juste que nous devons sensibiliser nos populations, leur parler comment ils doivent se comporter, Mais normalement, chaque animal, et surtout le bonobo, qui est un animal extrêmement intelligent. Et je vais juste vous dire que c'est l'animal le plus proche de l'homme. Nous partageons presque le même ADN, c'est-à-dire à plus de 98%.
Mais il voulait savoir également, en fait,
Monsieur Adams, aucun tort qu'un animal, à moins qu'il soit menacé.
Mais il voulait également savoir, en fait, quel intérêt il y a pour les communautés de protéger cet animal-là.
Alors, d'abord, nous devons comprendre que ces animaux sont intégralement protégés par notre gouvernement. Donc, c'est illégal de leur causer du tort. On risque un terme de prison d'environ 5 à 10 ans et une amende allant jusqu'à 1 ou 1500 dollars américains. Et donc, ça, c'est de un. De deux, c'est notre héritage naturel que nous ont légué nos grands-parents. La plupart de nous venons des cultures où nos grands-parents étaient chasseurs. Et à part ça, nous tous, en tant que Congolais et Africains en général, nous avons ce qu'on appelle des totems. C'est des animaux sauvages, en fait, qui représentent notre descendance. Et du coup, tout le monde, chaque Noir, chaque Africain, a un cousin dans la nature. Et alors, nous devons protéger ces animaux parce qu'ils font partie de cette riche culture congolaise que nous ont légué nos parents. Mais aussi, pour la biodiversité, nous sommes censés vivre en harmonie avec la nature. Vous allez remarquer, parce que j'ai entendu, Thomas a beaucoup parlé de la forêt. Alors, cette forêt-là a été créée par le Tout-Puissant, si vous êtes chrétien. Et cette forêt ne peut jamais être replantée. Parce que cette forêt contient déjà ses propres ingénieurs et architectes. Alors, les primates en général et les singes sont les jardiniers, les architectes de la forêt. Grâce à eux, quand ils sautent d'un arbre
à un autre,
ils mangent une variété de fruits. Alors, il permet la forêt de se régénérer parce que ces fruits-là, la semence va passer à travers son système digestif. Et ainsi, pourra même atteindre des lieux où l'être humain ne peut pas atteindre. Et ainsi, à travers sa matière fécale, il va planter cette semence là-bas. Et ainsi, il veille à ce que la diversité des arbres dans la forêt continue à exister. Et pour le moment, vous allez vous rendre compte que la RDC s'est fait appeler pays solution. Et ce qui nous fait appeler pays solution, c'est cette forêt-là. Et du coup, le travail que nous faisons de protéger la faune, de lutter contre ces bandits qui essaient de les tuer juste pour leurs propres intérêts, c'est que nous protégeons ces jardiniers-là et analogiquement, nous protégeons cette forêt. C'est-à-dire que nous protégeons l'humanité, l'organe qui produit l'oxygène, je dirais l'essence même de la vie.
Monsieur Adams, quelle est votre perception des activités de Mbumontu qui est dans le tourisme et la protection des bonobos dans Bolobo, parce que là-bas, c'est un animal considéré comme un interdit, hein, on ne peut pas consommer ça, c'est le cousin de l'homme.
Alors, moi je pense que la plupart des coins où je suis passé, dans des zones où le bonobo est autochtone, c'est de cette même manière qu'ils le prennent. Mais dans ma petite observation, je me suis rendu compte que des fois, quand la faim frappe, on perd le sens de l'humanité et des fois, on se retourne contre sa propre culture.
Ses propres interdits.
C'est un interdit, mais on veut survivre. C'est une question de survie. Et c'est pour cette raison... Je voulais peut-être chuter en disant que on ne fera aucune conservation si la conservation communautaire ne cesse d'être juste un slogan et commencer à prendre action. Parce que les gens, nos communautés qui ont longtemps vécu avec ces mêmes animaux, qui les ont protégés pendant des années, pourquoi du coup ils se retournent contre ces animaux? Des fois je me dis que c'est peut-être parce que ils ne se sentent plus dans une position de possession, parce qu'en fait, ces animaux leur appartiennent. Ces animaux nous appartiennent, nous,
oui.
citoyens congolais. Et alors, quand du coup, ils sentent qu'ils n'ont plus ce sens-là de possession, peut-être ils pourraient penser autrement. Mais aussi, cette forêt qui nous fait passer comme pays solution, juste parce qu'il produit de l'oxygène, il émet de l'oxygène pour toute la planète, pour certaines communautés, surtout les communautés riveraines, c'est ça leur pharmacie, c'est ça leur supermarché, c'est ça leur parc où jouent leurs enfants, c'est ça le lieu où ils prennent le matériau pour la construction.
Les lieux de l'initiation.
Ils ne sont plus permis d'y aller. Certains qui ont même enterré leur mort à l'intérieur n'ont plus le droit d'y rentrer. Alors, moi, en tant que conservateur, je pense qu'on ne peut pas conserver une partie de la nature et abandonner une autre. La nature est complexe et on doit la protéger dans sa complexité.
Dans cette diversité. Merci beaucoup, M. Adam Sokasinga. Nous rappelons que vous êtes promoteur de l'ASBL Congo Conserve, hein, qui est dans la lutte contre la criminalité faunique. Merci d'avoir été avec nous dans Okapi Service. Monsieur Claude, dites-nous, qu'est-ce que la communauté locale gagne dans cette approche au fait des protections des bonobos à Bolobo?
Oui, merci, M. Tati. La population locale gagne beaucoup. C'est pas en vain qu'ils ont accepté de concéder l'air forêt à la conservation.
Un instant, monsieur Claude, le temps de donner la parole à un auditeur qui appelle de Kindu. Jean-Claude, bonjour et bienvenue dans Okapi Service.
Bonjour, cher ami Tati, et bonjour aussi à nos deux invités et à tous les auditeurs de la
population. À vous la parole, hein, le temps se graine vite, on n'a plus assez de temps.
Oui, en fait, c'est une observation. Moi, je pense que nos amis ont parfaitement raison, parce que c'est le même cas que nous sommes en train de constater chez nous au Maniema. Et d'ailleurs, nous sommes dans une période de fermeture du mois de juin jusqu'au mois d'octobre. Mais force est de constater que les mêmes pratiques avec nos singes qui sont dans le parc national de Lomami, si on ne prend pas garde, moi je pense que d'ici 2030, on n'aura plus rien. Il y a des lois, par exemple, la loi 082 qui est là, mais qui n'est pas bien accompagnée. Donc, il faudrait une forte sensibilisation. Il faudrait que nous ayons des partenaires qui vont nous accompagner dans ce sens. Parce que nous seuls, l'État congolais ne sera pas en mesure de pouvoir mettre fin à cette situation ou à la délinquance phonique. C'est quelque chose que nous sommes en train de constater sans notre pouvoir et que ça demande l'éducation de tout le monde afin que nous puissions atteindre nos objectifs et garder ces gens qui sont en voie de conscience. Voilà.
Merci beaucoup, M. Jean-Claude. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Kindu que vous intervenez, M. Claude. Comment commentez-vous d'abord sur la perception de Jean-Claude et puis vous allez revenir sur ma question.
Oui, bon, Jean-Claude voulait quoi au juste puisque...
Bon, il a dit que la fermeture de chasse dans cette partie du pays n'est pas respectée et à la longue, il y aura vraiment menace sur l'écosystème au fait du parc national de la Salonga.
Oui, justement, c'est exact ce qu'il dit là. Pourquoi? Parce que, vous voyez, avec la conservation classique, on ne tient pas compte des communautés locales. Il y a des fois, on est obligé de faire déguerpir les communautés locales pour conserver une espèce qu'on a considérée comme une espèce noble ou une espèce endémique.
Ce qui
est le contraire de ce que Mbumutur fait. Mbumutur implique les communautés locales, travaille avec les communautés locales, fait comprendre les communautés locales que vous êtes les acteurs principaux, puisque c'est vous qui avez conservé cette espèce depuis des temps immémoriaux.
Moi, je voulais savoir que gagnent les communautés locales en protégeant les bonobos?
Oui.
Dans la zone du projet?
Oui. Les communautés locales ont compris que les bonobos, c'est leur diamant. Ils ont intérêt à les protéger et à protéger son habitat. Pourquoi? Parce que, en protégeant cette espèce, qui est endémique en RDC, il y a des étrangers, des visiteurs étrangers qui viennent pour voir cette espèce. Puisqu'il y a des visiteurs où Ils entendent parler des bonobos, mais ils n'ont jamais vu les bonobos comme ça. Alors, ils meurent d'envie de venir voir les bonobos en payant quelque chose. Mmh. Ça génère des revenus que j'appelle des revenus durables pour les communautés locales. Avec ces revenus-là, chez nous, ils ont construit des dispensaires, ils ont construit des écoles, ils payent des enseignants. Mmh. Donc, on construit des ponts, on réhabilite les voies des certes agricoles avec tout ça. Mmh. Donc, ça génère des revenus durables. Donc, les communautés locales ont compris que ça, c'est notre diamant. Raison pour laquelle, en 2015, il y avait un non-octone qui vivait dans un village. Mmh. Il s'est entré dans la forêt, effectivement, là, pour tuer un bonobo. Il a été démasqué.
Sanctionné.
Oui, un pisteur, et puis qui a appelé la police, tout consort, Kinshasa, ressources organisées, pour l'arrêter. Et il a fait la prison à Inongo. Ça, c'est la population locale qui dit, il a entendu un coup de feu.
Dans la forêt.
Un fait étrange chez nous. Les gens se sont mobilisés pour
aller voir qu'est-ce qui se passe dans la forêt.
Qu'est-ce qui se passe là-bas. Vous voyez, ça c'est l'appropriation du projet. Donc c'est un projet qui émane des communautés locales. La communauté locale s'est appropriée de ces projets et ça ne peut que donner des résultats meilleurs.
Oui, ça c'est une bonne approche de la promotion de l'écotourisme en fait en RDC. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur les coûts? Pour quelqu'un qui veut visiter, qui veut venir en tourisme dans la région, c'est que ça peut représenter comme coût. Et s'il y a un numéro de téléphone par lequel on peut vous joindre pour faire la réservation.
Bon, je n'ai pas de tarifs en tête, ouais. Puisqu'il y a des
services qui sont censés faire ça.
Voilà. Oui, moi, je ne peux pas donner des coûts comme ça, des
d'accord.
tarifs.
Mais les téléphones, le site internet s'il existe.
Oui, oui, les téléphones, vous avez les numéros du président. C'est
081 081 0 340 0 340
et 845.
845.
Oui.
Je rappelle le numéro, c'est le 081 0 340 885. Ça c'est le contact de l'ASBL Mboumontour qui est dans la protection et le tourisme des bonobos dans la province de Maïndombe. Mais est-ce qu'il y a un site internet par lequel les gens peuvent également aller voir ou avoir des informations, des plus amples détails sur les conditions de logement, d'hébergement et puis les tourismes, c'est lesquels?
Mboumontour en un mot.
Oui.
MMT.org.
Veuillez les plaies. www.mboumontour-mmt.
Org.
Monsieur Claude Mouguiemo, nous rappelons que
vous pouvez aussi consulter la page Facebook. Hein?
Ok. Au nom de, sous l'appellation de Mboumontour.
Mboumontour, toujours. Oui.
Merci beaucoup, monsieur Claude Mouguiemo. Nous rappelons que vous êtes directeur de recherche de l'ASBL Mboumontour, qui est dans la conservation de la nature et l'écotourisme. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Radio Capi. Nous espérons que ce n'est pas la dernière fois. À la prochaine occasion, au revoir.
Ok. C'est à moi de vous remercier. C'est à dire.